Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors ces jours-ci, j'avais un peu de temps libre et j'en ai profité pour ranger ma bibliothèque et trier mes piles de disques afin de vous proposer un nouveau contrôle discal dont j'emprunte le titre à la célèbre émission de Rémi Kolpakopoulos sur Radio Nova. Ce contrôle discal sera d'ailleurs l'occasion d'un certain nombre de questions auxquelles je me garderai bien de répondre, bien entendu. Et puisqu'on parle beaucoup de l'Espagne ces temps-ci, pourquoi ne pas commencer par un extrait de L'Amour sorcier ? Le célèbre ballet écrit en 1915 par le compositeur espagnol Manuel de Falla, avec une question à la clé, croyez-vous au revenant ? C'est que l'action de L'Amour sorcier se déroule parmi les gitans d'Andalousie, dans une atmosphère de superstition et de sorcellerie. C'est la légende de l'âme en mort dont le spectre surgit chaque fois qu'un autre tente de prendre sa place. Moi je le comprends assez, je suis plutôt de tempérament jaloux après tout. Il faut avoir un peu d'indulgence pour certaines passions humaines. Enfin bref, il est temps maintenant d'écouter un peu de musique, donc un extrait de cet amour sorcier de Manuel de Falla. Je vous propose la danse de la frayeur, une pièce brève, singulière, convulsive, dans un arrangement original et savoureux de Manuel d'Outrelan pour trompette piccolo, deux violons, alto, violoncelle et contrebasse. Nous écoutions la danse de la frayeur, un extrait de L'Amour sorcier de Manuel de Falla, dans un arrangement très réussi de Manuel d'Outrelan pour trompette et quintette à cordes, trompette piccolo très exactement, qui est tenue par Romain Leleu, le plus célèbre des jeunes trompettistes français, pour cette musique nerveuse, colorée et singulière. Et il était accompagné par le quintette à cordes Convergence. C'est un extrait de leur album Sur la route, paru en 2013 chez Aparté. Alors, nouvelle question, qu'est-ce qu'une troïka ? Eh bien, une troïka, c'est tout simplement, au départ, une voiture hippomobile à trois chevaux. J'aime beaucoup ce mot, hippomobile. Mais pourquoi cette question, me direz-vous ? Eh bien, c'est parce que je suis sûr que vous vous souvenez des fameuses saisons composées par Tchaïkovski en 1876. Mais si, nous les diffusons régulièrement dans la preuve par Z. Eh bien, figurez-vous que celle consacrée au mois de novembre est sous-titrée « Course en troïka ». Alors c'est une très jolie pièce, très agréable, très charmante, qui adopte, comme presque toutes les saisons de Tchaïkovski, la forme ABA, décidément la forme qui aura marqué toute l'histoire de la musique classique. A, première partie, B, seconde partie, et puis pour terminer, on revient à la première partie ABA. Oui, mais là, quand revient la partie A, donc à la fin de la pièce, le thème est accompagné d'un tourbillon de flocons de neige particulièrement virevoltant sous les doigts de la grande pianiste Brigitte Ungerer. Ne contemple pas la route tristement, ne te hâte point de suivre la troïka, la mélancolie tapie dans ton cœur, impose-lui le silence à jamais. Nous écoutions La course en Troïka, un extrait du recueil Les saisons de Tchaïkovski, interprété par la pianiste Brigitte Ungerer. Alors la musique suivante, la musique que nous allons entendre dans quelques minutes, pose la question de savoir s'il est dangereux ou pas d'aller chez le coiffeur. En effet, dans le fameux épisode biblique de Samson et Dalila, Samson se fait couper ses 7 tresses par Dalila et du coup il perd toute sa force et tout son pouvoir et se fait alors crever les yeux par les Philistins, ce qui n'est pas forcément très agréable. Et cette histoire biblique qui se trouve dans le chapitre 16 du livre des Juges très exactement, eh bien elle est à l'origine de l'opéra le plus connu du compositeur français Camille Saint-Saëns. Alors je vous propose d'en écouter l'air le plus connu, un air de mezzo-soprano qui se trouve à la fin du second acte de l'opéra « Mon cœur s'ouvre à ta voix ».« Mon cœur s'ouvre à ta voix comme s'ouvrent les fleurs au baiser de l'aurore » et nous allons retrouver la suavité inégalable du legato de Marie-Nicole Lemieux, accompagnée par de délicates doubles croches, des notes répétées des cordes « ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta » qui figurent pour moi les battements d'un cœur ému. Au baiser de l'aurore. Un magnifique air d'opéra dans La Preuve par Z, c'était Mon cœur s'ouvre à ta voix, un air tiré de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns par la mezzo-soprano Marie-Nicole Lemieux, accompagnée par l'Orchestre National de France sous la direction de Fabien Gabel, un extrait de l'album La Passion Lemieux. Et j'en arrive à ma question suivante, quel est le compositeur qui a été à l'origine de la redécouverte de Bach au XIXe siècle ? Eh bien, c'est Félix Mendelssohn, bien sûr, qui a l'idée de redonner la passion selon saint Matthieu à Berlin en 1827 ou en 1829, je ne sais pas, je me trompe toujours un peu avec les dates, mais c'est à peu près ces eaux-là. Ça faisait un siècle qu'on n'avait plus entendu en Allemagne la passion selon saint Matthieu. Alors, le nom de Bach n'était pas totalement tombé dans les oubliettes. Les musiciens professionnels en disaient du bien, le vénéraient même, comme Mozart, qui découvre à la fin de sa vie la musique de Bach. Beethoven aussi en dit du bien. Enfin, le grand public ne l'avait plus entendu depuis très longtemps, ce qui est un peu normal si l'on réfléchit bien, parce qu'à l'époque, on ne jouait pas tellement la musique des compositeurs du passé, des compositeurs morts. On ne jouait en quelque sorte que la musique contemporaine. Oui, seulement voilà. Mendelssohn, dont la famille s'est convertie au luthérianisme et qui voue un culte à la musique de Bach, culte renforcé par son professeur Zelter, qui est aussi un grand amoureux de Bach, qui lui a fait faire ses études de musique dans l'adoration des œuvres de Jean-Sébastien Bach, et bien Mendelssohn, qui est un personnage très en vue, qui est un peu l'enfant prodige de toute cette génération de musiciens romantiques, Mendelssohn décide de lancer la Bachomania. Oui, j'appelle ça la Bachomania parce que figurez-vous qu'on a beaucoup pleuré et beaucoup mis en avant ses sentiments personnels lors de l'époque romantique, mais c'est aussi le moment où on se met à commencer à construire une véritable statue à Jean-Sébastien Bach. Alors, est-ce qu'il y a une influence de la musique de Bach sur les compositions de Mendelssohn? Oui, très souvent, dans un certain nombre d'œuvres, notamment les préludes et fugues pour piano, dont Mendelssohn dit en les composant « Je sens la perruque qui me pousse sur la tête ». Mais on trouve d'autres traces de cette influence de Bach dans certaines pièces de Mendelssohn, comme par exemple ce capriccio en mi mineur pour Quatuor à cordes que je vous propose d'écouter maintenant, qui est en deux parties, un véritable prélude et fugue. Mais je vous en propose non pas la version d'origine pour Quatuor à cordes, mais une version transcrite pour Quatuor de clarinette. Oui, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi j'adore le Quatuor de clarinette, et vous allez voir que dans cette musique, la douceur et le velouté des registres graves de l'instrument fait vraiment merveille dans cette pièce en deux parties, donc ce prélude et fugue à la Bach, mais un Bach qui se serait tout d'abord laissé gagner par la mélancolie romantique dans le prélude, avant de réagir avec énergie et volonté dans la fugue. C'était le Capriccio en mi mineur de Félix Mendelssohn, un Capriccio en forme de prélude et fugue, à l'origine écrit pour quatuor à cordes, mais ici transcrit et interprété par le quatuor enchanté, un quatuor de clarinette comme vous venez de l'entendre, et c'est un extrait de leur album Balabil, un très joli album paru en 2017, un album dont la variété fait paradoxalement l'unité, de Falla à Johann Strauss, de Mozart à Rimsky-Korsakov, de Mendelssohn à Debussy et Ravel. Et maintenant la question suivante, écrit-on toujours aujourd'hui des opéras? Mais oui, un peu moins qu'au XIXe siècle certes, mais beaucoup quand même. Resteront-ils au répertoire? Ça, nul ne peut le prédire. Ces opéras seront-ils influencés par d'autres formes de la musique, comme la chanson, le jazz ou la comédie musicale? C'est la grande question. Alors je vais essayer d'y répondre grâce à un air du compositeur américain John Adams, un air tiré de son opéra « Docteur Atomique ». John Adams, c'est l'un des compositeurs les plus joués dans le monde aujourd'hui, notamment grâce à ses opéras Nixon in China et La mort de Klinghoffer. Docteur Atomique, c'est le cinquième de ses 6 ouvrages lyriques. Il a été joué pour la première fois en 2005 à l'Opéra de San Francisco, dans une mise en scène de Peter Sellars, également auteur des paroles, et sur une chorégraphie de Lucinda Childs. L'argument se fonde sur l'histoire du célèbre projet Manhattan, ce projet de recherche qui permit aux États-Unis, avec l'aide du Royaume-Uni et du Canada, de mettre au point la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'air que vous allez entendre maintenant, Cathy, la femme de Robert Oppenheimer, le directeur du projet Manhattan, souligne le paradoxe qu'il y a à semer la mort pour obtenir la paix. Et vous écouterez bien les pizzicatos des violons dans l'aigu à la fin de l'air, comme un tic-tac d'horloge fatale.
Spongebob.
Extrait de l'opéra Docteur Atomique de John Adams, nous écoutions Am I in Your Light, l'air qui est à l'origine de l'album So Many Things de la soprano Anne-Sophie von Otter. Et notre grande chanteuse de s'interroger, pourquoi certaines musiques vous touchent-elles tandis que d'autres vous laissent de glace ? En ce qui me concerne, continue-t-elle, je sais qu'au sein de l'univers classique contemporain, les musiques qui me font le plus vibrer ont souvent un dénominateur commun. Soit elle possède une belle énergie rythmique, un groove particulier, soit elle procède d'une écriture mélodique ou harmonique irrésistiblement humaine, tout le contraire d'un travail exagérément intellectuel. Alors dans un premier temps, j'étais tout à fait conquis par cette déclaration d'Anne-Sophie von Otter, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est qu'un travail exagérément intellectuel ? Qui va décider ce qui est intellectuel, ce qui n'est pas intellectuel, ce qui est exagérément intellectuel et ce qui est normalement intellectuel ?» Ça, c'est une grande question à laquelle je vous propose de répondre en écoutant une rareté de Debussy. Mais oui, Debussy, on croit tout connaître et on découvre toujours de nouvelles pièces. Figurez-vous que c'est en préparant cette preuve par Z, ce contrôle disque de la semaine, que je suis tombé sur un disque que j'avais depuis bien longtemps mais dont je n'avais pas écouté toutes les pistes. Et l'une de ces pistes, c'était la marche écossaise sur un thème populaire de Debussy. Ah, ça je suis sûr que même si vous vous targuez de bien connaître la musique de Debussy, vous n'avez pas forcément entendu parler de la marche écossaise. Et en plus, c'est une marche écossaise qui va nous permettre de poser une nouvelle question. Qu'est-ce qu'un bagpipe ? Eh bien, bagpipe, littéralement, c'est un pipeau à sac, c'est-à-dire tout simplement une cornemuse. Les régiments écossais de l'armée britannique ont encore aujourd'hui leurs bagpipers. Alors, la marche écossaise sur un thème populaire, c'est une pièce pour piano à quatre mains, écrite en 1891 par Debussy et orchestrée par le compositeur une quinzaine d'années plus tard. Alors nous allons écouter maintenant la version orchestrale de cette marche écossaise, une marche fondée sur un authentique air de bagpipe écossais fourni par le commanditaire qui était non seulement général mais également ancien consul général des États-Unis en France. Vous allez voir, cet air de bagpipe fait partie de ces airs qui vous entrent dans le crâne pour ne plus jamais en sortir et il est utilisé par Debussy aussi bien dans les parties rapides que dans la rêveuse et mélancolique partie centrale de l'œuvre avant de se transformer en gigant diablé pour un final digne des meilleures musiques de film. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque c'est l'Orchestre Royal d'Écosse qui est à la manœuvre dans l'interprétation que je vous propose maintenant d'écouter sous la direction de l'excellent Stéphane Deneuve.
Thank you. Thank you.
C'était la musique pittoresque et colorée de la marche écossaise sur un thème populaire de Claude Debussy par l'Orchestre Royal d'Écosse sous la direction de Stéphane Denève. Alors finalement, faut-il classer ces disques ? Oui, assurément. Si vous ne rangez jamais vos disques, il vous sera impossible au bout d'un moment de vous y retrouver. Mais le conseil que je me permets de vous donner, c'est de ne pas trop bien les classer. Parce que si vous faites un classement trop parfait, eh bien vous ne retomberez plus jamais par hasard sur un disque que vous aviez oublié d'écouter. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 2 ou 3 jours, alors que je préparais notre preuve par Z pour France Inter. Tout d'un coup, j'aperçois un disque dont je n'avais même pas enlevé la cellophane. Un disque consacré à la fois au compositeur norvégien Eduard Grieg et au compositeur russe Nikolaï Medner. Alors au bout d'un moment, je me suis rappelé que ce disque m'avait été donné il y a de nombreuses années, à l'issue d'un concert que je faisais comme pianiste avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et que ce disque m'avait été donné par l'extraordinaire violoniste bulgare Svetin Roussev, violon solo de l'orchestre et professeur au Conservatoire de Paris. J'ai donc enlevé l'enveloppe de cellophane du disque, ce qui est toujours une opération un petit peu périlleuse, et j'ai découvert des interprétations magnifiques, retrouvant le violon inspiré, flamboyant et romantique de Svetin Roussev en duo avec le piano délicat et merveilleusement phrasé du pianiste Frédéric Doria-Nicolas. Alors il faut que les deux me pardonnent d'avoir mis tant de temps à écouter leur magnifique album, mais enfin, j'ai quand même quelques arguments pour me faire pardonner, puisque je vais maintenant partager l'une des pistes de leur album avec les auditeurs de la preuve par Z. Alors j'ai choisi le mouvement lent de la 3e sonate pour violon et piano de Grieg, le compositeur norvégien, et c'est une sonate qu'il affectionnait particulièrement, c'est sa dernière sonate, il l'a jouée de très nombreuses fois en concert, en compagnie à l'époque du violoniste Adolphe Brodsky. Donc nous en écoutons le second mouvement, une très belle romance qui nous transporte dans un monde féerique de fjords, de lacs sans fond et de glaciers enneigés, avant que le violon n'incarne avec suavité un lyrisme presque mélancolique, plein de douceur et de volupté.
Thank you.
C'était le second mouvement, la romance de la sonate numéro 3 pour violon et piano d'Edouard Grieg, sonate en ut mineur opus 45 numéro 3 très exactement, une pièce écrite en 1887, interprétée par le violoniste Svetlin Roussev et le pianiste Frédéric Doria-Nicolas, un extrait de leur album Grieg-Mettner paru en 2009 chez Fondamenta. Une dernière question dans notre preuve par Z maintenant. Combien de doigts un pianiste virtuose a-t-il? Vous allez me dire 10, oui, mais chez certains virtuoses, on a l'impression qu'ils en ont 11, 12, voire 13 ou 14, comme dans le cas du génial Vladimir Horowitz. Alors nous avons commencé ce contrôle discal avec l'amour sorcier. Il me paraît tout à fait logique de terminer avec Vladimir Horowitz, qu'on a souvent surnommé le sorcier du piano, sans doute l'un des plus grands virtuoses de tous les temps. Alors je n'ai que l'embarras du choix pour vous faire découvrir, pour partager avec vous l'art invraisemblable de ce grand virtuose si vous ne le connaissez déjà, puisqu'à partir du début des années 60, un très grand nombre des concerts d'Horowitz ont été enregistrés en public. Il faut dire qu'un récital d'Horowitz, c'était toujours un grand événement. Et j'ai finalement choisi l'invraisemblable virtuosité d'une transcription paraphrase de la célèbre chanson bohème du deuxième acte du Carmen de Bizet. Une transcription paraphrase qui est due à Horowitz lui-même parce que c'était non seulement un très grand pianiste mais également un compositeur et un arrangeur. Et il aimait bien créer des sortes de paraphrases encore plus virtuoses que la partition d'origine. Donc chanson bohème du deuxième acte du Carmen de Bizet, les tringles des sistres tintaient avec un éclat métallique et sur cette étrange musique les zingarellas se levait, le piano se fait à la fois orchestre, percussion et cymbalum. Thank you. Quelle virtuosité, quel brio, quelle imagination pianistique. C'était les variations sur un thème de Carmen de Bizet, en l'occurrence variations sur la chanson bohémienne de Vladimir Horowitz, avec bien sûr Vladimir Horowitz au piano, un enregistrement réalisé en 1968 au Carnegie Hall de New York. Voilà, c'est avec ce piano pyrotechnique que se termine notre émission de la semaine. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Segre, chef opérateur du son, Ronan Mahé. À la semaine prochaine.